Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de cette émission. Bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous. Troisième numéro de notre série d'émissions consacrée à Blagnac, dans le cadre de notre cycle dédié aux communes de la métropole toulousaine. Nous vous invitons ainsi à la découverte de l'histoire du patrimoine des territoires et des activités économiques, associatives et culturelles des 37 communes métropolitaines. Et il y a beaucoup à découvrir, à apprendre, comme vous avez pu le constater si vous avez écouté les deux précédents numéros de cette émission. Blagnac est donc la première commune que nous explorons, et après son histoire et son patrimoine, c'est son territoire et son économie que nous allons vous présenter aujourd'hui. Vaste sujet, puisque Blagnac, là encore, offre une grande variété, que ce soit en ce qui concerne ses paysages et la faune qu'ils abritent, que son tissu économique. Blagnac, territoire et économie, c'est parti! Et pour ce numéro consacré au territoire et à l'économie de Blagnac, nous retrouvons une nouvelle fois Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire, parce que si elle s'est beaucoup intéressée à l'histoire et au patrimoine de la ville où elle réside, elle connaît aussi très bien sa géographie et ses activités économiques. Pour poser le décor, je vous propose, avant d'entrer plus avant dans le détail avec vous, Annie Thomas, de faire une présentation générale du territoire et de l'économie de la commune blagnacaise. Par exemple, pour commencer, des données qui vont parler à tous nos auditeurs. Quelles sont la surface, les communes limitrophes et le nombre d'habitants de Blagnac aujourd'hui ?
La commune de Blagnac s'étend au nord-ouest de la métropole toulousaine. Elle est composée de 1688 hectares, pour être très précise. Ces hectares épousent en fait la courbe de la Garonne après Toulouse, de l'embouchure de la rivière Touche jusqu'à Beauzelle, la zone des 15 saules. Nous sommes limitrophes avec Toulouse, des deux côtés de la Garonne, Cornebarieux, Colomiers, Aussonne, Beauzelle et puis Fenouillet, là aussi de l'autre côté de la Garonne. Le nombre d'habitants est aujourd'hui de 27 000. Après être resté quasiment stable entre 1000 et 2000 pendant des siècles, mais véritablement des siècles. Le développement de la population, nous pouvons vraiment le dater dans les années 1960. 1962, on est à 5320 habitants. Ça décolle, véritablement, là. Et en 1999, nous sommes à plus de 20 000 habitants. 27 000 aujourd'hui, vous l'avez vu. Et inévitablement, la structure démographique est très différente de ce qu'elle était précédemment. Nous avons beaucoup plus de cadres, de techniciens, de professions supérieures, on peut dire, de commerciaux, d'artisans, et beaucoup moins de pêcheurs, d'agriculteurs, de maraîchers ou de blanchisseuses.
Donc une sociologie qui s'est totalement modifiée, on peut
totalement,
le dire.
Totalement.
Vous avez parlé de la Garonne. Moi, c'est une curiosité qui est personnelle. La portion de Garonne qui passe sur la commune, c'est combien de kilomètres ?
Une dizaine de kilomètres.
Oui, tout
ce
de même.
Qui est beaucoup, oui. Ouais. Ce qui est beaucoup, effectivement. Et si on regarde la répartition du territoire au regard des activités, on peut dire qu'on fonctionne sous une règle très simple, qui est la règle des trois tiers. Un tiers pour l'habitat, un tiers pour les activités économiques et un tiers pour les espaces verts et naturels. Et il est vrai que le cours de la Garonne que vous évoquez est classé Natura 2000, donc nous ne pouvons pas bien sûr le construire, intouchable. C'est formidable, c'est très bien. Peut-être le nombre d'emplois.
Et d'entreprises,
implantées
sur la commune.
Le nombre d'entreprises implantées sur la commune est important, 2500.
Énorme.
Entreprise, c'est énorme. Et commerce, hein,
oui, tout compris.
Commerce aussi. Il y a 40 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises. Vous voyez, par rapport à 27
000,
c'est énorme. C'est très rare. Hein. Des noms prestigieux, 2500, mais aussi des noms prestigieux. Airbus, bien sûr, pour tout le monde, mais aussi ATR. Safran, le siège de la Chambre régionale de commerce et d'industrie qui est à Blagnac, Rockwell Collins, mais je n'oublie pas aussi tous les sous-traitants, tous les différents bureaux de l'aéronautique et bien sûr le siège de l'aéroport. Juste pour finir, les usines toulousaines d'Airbus, dont tout compris, constituent le premier site industriel de France depuis quelques années. Elles sont passées devant le site des usines Peugeot à Sochaux, pendant très longtemps était le premier site industriel de France. Désormais, c'est Airbus à Toulouse.
Oui, ce sont des chiffres qui parlent, tout ça. Hein. Et en tout cas, ce sont de précieuses informations qui posent les bases de cette émission. Nous allons vous en dire plus et entrer dans le détail avec Annie Thomas dans quelques minutes. Pour l'instant, place à l'actualité avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu.
«
Et cette semaine encore, une information sportive en ouverture de ce flash. Le Stadium de Toulouse accueillera 4 matchs de la Coupe du Monde de rugby en 2023.
Effectivement, jusqu'ici, rien n'était acquis pour la capitale européenne du rugby. En cause, les modifications apportées à la pelouse du Stadium à l'occasion de l'Euro 2016 de football. Un terrain surélevé mais légèrement raccourci en longueur comme en largeur, avec des marches et des barrières métalliques fixes placées de telle façon que le jeu en bord de touche et dans le fond de l'embute pouvait s'avérer dangereux. À plusieurs reprises, le comité d'organisation a insisté sur le fait que ces travaux avaient compromis sa capacité à accueillir des matchs de rugby à 15 au plus haut niveau international. Claude Hatcher, directeur général du CO France 2023, a confirmé que le Stadium de Toulouse accueillerait bien 4 matchs.
La concertation se poursuit pour le projet de parc urbain et les citoyens sont invités à participer à un atelier le 15 octobre sur l'île du Ramier.
Et pour transformer l'île en un parc urbain dédié à la nature, à la culture et aux loisirs, une grande concertation est engagée depuis juin 2017. Le grand parc Garonne, qui s'étend sur 32 km et concerne 7 communes, vise à reconquérir les bords du fleuve pour faire de la Garonne le lien fédérateur de la métropole. Grâce aux nombreuses contributions recueillies pendant la concertation lancée depuis 2017, 10 priorités pour l'île de demain ont été définies sur les thèmes de la nature, des usages et de la mobilité. Ces priorités sont traduites dans le plan guide d'aménagement de l'île du Ramier à l'horizon 2030. L'île doit aussi devenir le futur poumon vert de la métropole. Le projet de reconversion de l'île du Ramier vise à renforcer le caractère naturel des berges, à développer le patrimoine arboré et à protéger la biodiversité. Pour en discuter, vous pouvez vous inscrire à l'atelier de la Maison des Associations Niel le 15 octobre de 18h30 à 20h30.
De nouveau du sport pour terminer ce flash d'information. Dimanche, c'est la 13e édition du marathon de Toulouse Métropole.
Et les courses prendront leur départ sur le pont Pierre de Coubertin, près du stadium. Chaque parcours permettra aux coureurs de passer devant des points emblématiques de la ville rose, tels que le canal du Midi, la cité de l'espace ou encore le jardin des plantes, le Grand Rond, le dôme de la Grave ou la cathédrale Saint-Étienne. Ces rues d'Alsace-Lorraine à deux pas du Capitole que les marathoniens franchiront la ligne d'arrivée. 4 formats de course sont proposés pour satisfaire amateurs de course à pied, pratiquants occasionnels, athlètes handisport et compétiteurs. Le marathon en individuel, semi-marathon, 10 km marathon relais à 4. L'épreuve du marathon est détentrice du label international et les épreuves du semi-marathon et du 10 km sont détentrices du label national. Ces 3 épreuves sont qualificatives pour les championnats de France selon les minima fixés par la FFA.
Le traditionnel flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Alors, Annie Thomas, peut-être une réaction à ce projet de parc urbain à l'île du Ramier, qui est à Toulouse, pas Blagnac, mais enfin, c'est juste à l'amont de Blagnac et de la portion de Garonne qui est sur votre commune.
Tout à fait. La commune de Blagnac appartient au Grand Parc Garonnais. Le trajet que je décrivais dans l'autre émission que nous avons eue la semaine dernière est dans ce Grand Parc Garonnais. Bon, d'abord, je constate une grande proximité entre les mots. Donc, tout ça a un sens. Ça me semble important de conserver cette notion de ramier aussi à Toulouse et de rendre à cette île un peu sa vocation naturelle. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce qui est important aussi, c'est l'implication de la société civile, puisqu'on comprend à travers ce qui vient de nous être dit qu'une concertation a eu lieu, que aussi on souhaite que des citoyens s'engagent dans ce travail. Et en tant que représentante de la vie associative, je trouve ça très positif.
Eh bien, merci pour cette réaction. Nous poursuivons maintenant notre discussion et nos échanges à la découverte du territoire et de l'économie de la commune de Blagnac.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec notre invitée Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire. Et je propose qu'on commence par le territoire de la commune blagnacaise et par le type de paysage qu'on y rencontre. Quels sont ceux qui y dominent? Est-ce qu'il y a vraiment une variété? Je pense à ceux qui sont plutôt près de l'axe Garonne et ceux qui sont un peu plus éloignés.
Eh bien d'abord, revenons à la Garonne puisqu'on l'évoquait juste à l'instant pour dire que la vie et l'économie blagnacaise a été pendant très longtemps marquée par la Garonne, sa proximité. Notre territoire, en fait, a été façonné par la lente glissade de la Garonne de l'est vers l'ouest. Et cette glissade n'est pas terminée, en fait. La Garonne coulait là où se trouve l'aéroport aujourd'hui, c'est pour cela que c'est si plat. Et ensuite, elle a bougé petit à petit, petit à petit. Au Moyen Âge, il faut imaginer que la Garonne coulait au pied des murailles de Blagnac, que le ramier de Blagnac était sur l'autre rive.
C'était l'autre rive, oui.
C'était l'autre rive. Il fallait prendre des bateaux, le bac, pour arriver au ramier de Garonne. Et ceci, d'ailleurs, a entraîné toute une série de procès, de litiges entre les consuls et les citoyens, entre la commune de Blagnac et la commune de Toulouse, entre la commune de Fenouil et la commune de Toulouse, avec Beauzelle aussi, à qui appartenaient ces terres, à partir du moment où le lit de la rivière changeait et nous avions à un moment une implantation d'un champ et ce champ n'existait plus puisqu'il était sous l'eau. Qu'est-ce qui se passait par rapport au champ nouveau qui était en train d'apparaître? Voilà, donc je vous en passe, mais véritablement les archives municipales de Blagnac sont remplies de dossiers de ce type. Un mot peut-être sur l'étymologie de la Garonne, du mont Garonne, parce qu'il nous éclaire aussi sur ce que représentait ce fleuve pour ces populations qui l'habitaient. Garonne s'est décomposé en Gar Umna. En fait, c'est un nom gaulois, celte. On a vu que Blagnac, c'était plutôt lié aux Gallo-Romains. Là, on est vraiment dans le gaulois. Le premier terme qui est Gar signifie celle qui crie et celle qui avertit. Et Umna, c'est l'action. Donc, celle qui se met en action d'avertir. En fait, ça fait référence au bruit que font les eaux, au bruit pendant les crues ou quand l'eau monte, en fait. Et ça signifie que la Garonne, qui était adorée à l'époque comme une divinité, est une divinité qui crie pour avertir qu'elle est là ou qu'elle arrive. Voilà. Ce mot « gar », on le retrouve, je sais que vous aimez bien les animaux, lorsqu'on évoque par exemple les aigrettes garzettes.
Oui.
Hein, c'est une espèce.
Garzette.
Gar,
d'accord.
Gar, ça vient directement, donc c'est le même suffixe, qui signifie qui crie. Et si vous vous souvenez, l'aigrette garzette, elle a un cri très particulier.
Oui, oui, oui.
Très fort et parfois même très désagréable. Hein.
Mais ça surprend quand on la voit
qu'on
pas.
Qu'on surprend.
Voilà. C'est les proches
surprend.
Qu'on l'a pas vu,
absolument,
effectivement.
Absolument, tout à fait. Mais ça signifie aussi que la Garonne à Toulouse et à Blagnac étaient encore un grand torrent pyrénéen. Et les populations qui l'abordaient en avaient aussi peur, l'aimaient bien sûr, mais en avaient aussi très peur parce qu'elles pouvaient donner ensuite des dégâts absolument extraordinaires. Vous parliez du sol. Le sol de la commune, donc, vous avez ce long glissement. La Garonne, en passant, elle entraîne évidemment des alluvions. Il y a eu aussi beaucoup de périodes glaciaires. Et donc, en fait, le territoire de Blagnac est séparé un peu en deux. Le sol est constitué quasiment à l'époque quaternaire, en fait, hein, au moment des dernières glaciations. À l'est de la route de Grenade, nous avons des marnes, des molasses, des galets, de l'argile. À l'ouest, la terre retrouve un petit peu ses éléments, mais avec un peu plus de terre alluviale. Bien sûr, la Garonne est plus près. La Garonne d'aujourd'hui est plus près, et dont on a du loess, ce qui donne des terres propres au maraîchage depuis très longtemps. Le maraîchage qui existait beaucoup au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et qui se poursuit aujourd'hui. Cette zone des 15 sols, c'est une zone extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui encore, on y cultive les fameuses carottes de
Blagnac. Oui, j'ai entendu dire que la culture principale, historiquement, c'était la carotte.
C'était la carotte, c'était les légumes racines, dont vous aviez des navets aussi. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la production, c'est plutôt les choux et les salades qui l'emportent. Il y a encore, bien sûr, les carottes, mais c'est surtout les choux et les carottes. Et puis, donc, à l'est, sur ces terres qui étaient autour de l'aéroport, ou sous l'aéroport, c'était des grandes terres de céréales et de vignes, en fait. La première production de Blagnac, à l'époque contemporaine, récente, on peut dire, c'était surtout la vigne et les céréales. Voilà.
Voilà, et on a parlé la semaine dernière de toute cette bande au bord de la Garonne, là, très riche, à la fois très arborée, avec beaucoup d'animaux là, qui
ce
vivent là.
Ce qu'on appelle la ripisylve.
Voilà, la ripisylve, voilà, effectivement.
C'est un terme très classique.
La partie végétalisée à l'immédiate proximité d'un fleuve ou d'une rivière, d'ailleurs. C'est là qu'est essentiellement concentrée la richesse de la faune et de la flore sur la commune de Blagnac.
Tout à fait. C'est là qu'on retrouve des oiseaux sauvages. Hein. On a des hérons, plusieurs types de hérons, le héron gris,
le héron. Le
bureau, voilà, qui est plus rare, qui perche en haut des très grands peupliers. Il faut lever la tête.
Qui a aussi un cri épouvantable.
Ah, qui a un cri épouvantable. Vous avez différentes aigrettes, la grande, la garzette, les écureuils. Hein, vous avez de très nombreux écureuils. Tous les petits oiseaux, les bergeronnettes, les bouvreuils, les passereaux, des canards, les cormorans. Je sais que là, ça ne fait pas plaisir à certains pêcheurs, mais c'est vrai que sur la Garonne, désormais, on a beaucoup de cormorans.
Puis un certain nombre de rapaces également. On en avait parlé assez largement la semaine semaine dernière. On va arriver donc au volet économique de la commune de Blagnac. Et puisqu'on parle de la Garonne, évidemment, elle a joué un rôle très important dans l'économie blagnacaise à travers le temps et jusqu'à une période très récente.
Jusqu'à une période récente, c'est-à-dire on parle là de avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Hein. C'est très récent. Beaucoup de personnes qui m'entourent dans notre association ont connu cette période. Hein. Donc, si on revient effectivement à la Garonne, depuis l'époque gallo-romaine, les eaux de la Garonne ont servi de voie de circulation. On y faisait circuler le vin et les céréales que j'évoquais à l'instant. On y faisait aussi remonter l'étain du nord de l'Europe qui intéressait les gallo-romains. On avait aussi le marbre et le bois des Pyrénées qui circulaient, qui descendaient la Garonne tout au long de son cours jusqu'à Bordeaux. Ça a toujours été une navigation extrêmement dangereuse. Parce que je le disais, la Garonne, c'est un torrent. C'est uniquement à partir d'Agen, on peut dire, que les eaux s'apaisent,
se calment.
Mais là, non. Il fallait entretenir de tout temps un chenal navigable. Parce que si on regarde les eaux de la Garonne aujourd'hui, je suis allée me promener l'autre jour justement, on voit que l'eau est très basse et que reste sur l'autre rive un chenal navigable encore aujourd'hui, mais ce chenal devait être entretenu. Donc les bateaux qui transportaient les hommes, mais aussi tout ce que je viens d'évoquer, s'appelait le courreau. C'était un bateau qui était manœuvré par 6 ou 8 hommes avec de longues perches. Il y avait très peu de gouvernail parce qu'il fallait plutôt...
C'était par la force qu'on arrivait à diriger
force,
le bateau.
En fait, ouais. Diriger le bateau. Et on descendait comme ça jusqu'à Agen et là, il y avait un changement souvent de bateau. Et ensuite, il fallait remonter. Et
oui, alors là,
c'est ça qu'on a oublié.
Je me demande comment ils faisaient.
Le chemin de halage. C'est-à-dire
c'est
à la force, d'abord humaine, dont pendant très longtemps, jusqu'au début du 19e siècle, c'était des équipes d'hommes qui se louaient dans les auberges. C'était souvent des joyeux lurons, croyez-moi.
Certainement.
Assez bagarreux. Et donc, très costauds, évidemment, qui remontaient en 10 ou 20. Il fallait absolument que le chemin de halage soit entretenu sur des berges fermes, parce que sinon, ils ne pouvaient pas passer. Donc ça, c'était une responsabilité des communautés. C'était extrêmement important, tout cet entretien le long de la rivière. Nous avions aussi un bac à Blagnac, qui s'est fixé à peu près vers le 14e siècle. On a des documents. Et c'est à peu près à la même époque que le port est vraiment installé. Il y avait un port. Toutes ces petites villes, villages avaient des ports.
Oui.
Donc le port s'est fixé à peu près à l'embouchure du Touche. Juste aujourd'hui, c'est l'extrémité de la rue du Bac qui porte parfaitement,
parfaitement
son nom. Alors, voie de circulation, source alimentaire. La pêche. La rivière était très poissonneuse, vraiment très très poissonneuse pendant très longtemps, pendant des siècles.
Ça a un petit peu changé malheureusement.
Certainement. Peut-être ça va revenir, gardez espoir. Voilà. La confrérie des pêcheurs était extrêmement importante à Blagnac. Elle structurait la vie du village. Pendant certaines périodes, il y avait plus de pêcheurs que de maraîchers,
oui,
par exemple.
Oui, je ne suis pas étonné. Oui.
Hein, c'était très important. Mais la richesse venait aussi du limon qui enrichissait les terres. Et il y avait aussi d'autres types de pêcheurs, c'est pour ça que je parle de ce nom important, qui pêchaient le gravier, mais qui pêchaient le sable aussi. C'est un travail très, très dur pour la construction. Ces mariniers, ces pêcheurs, pendant très longtemps, avaient la gratuité de la pêche. C'était une conquête des Blagnacais au Moyen-Âge. Et puis, petit à petit, à l'époque moderne, il a fallu payer une redevance au roi. On essayait de ne pas la payer, bien évidemment. Et on était toujours en bisbille avec le roi et avec les consuls sur cette redevance. Mais en échange de cette gratuité, les mariniers et les pêcheurs blagnacais devaient un service sur les bateaux des rois pendant les guerres. Donc en fait, c'est très curieux, mais nous avons des blagnacais qui partaient, les guerres contre les Anglais en particulier, hein, au XVIIe siècle, sur les bateaux du roi. Nous avons aussi une utilisation pour l'énergie. On connaît ça très bien, l'électricité, mais
oui,
on savait très bien à l'époque aussi. Et en particulier, il y avait à Blagnac des moulins flottants qu'on amarrait à la rive et on mettait des ancres. Et ces moulins, en fait, on les plaçait là où le courant était le plus fort. Ça a suscité des litiges là aussi absolument extraordinaires parce que les pêcheurs trouvaient que les moulins les gênaient.
Il y avait à l'époque.
Les consuls trouvaient que le baron, vraiment, il exagérait parce qu'il plaçait son moulin là où le courant était le plus fort et cassait le courant pour les autres moulins. Bref, des litiges absolument fantastiques tout au long de l'année. Autre usage de la Garonne, là aussi, c'est les fameuses blanchisseuses blagnacaises. Les blagnacaises étaient très réputées pour laver le linge des Toulousains. Elles partaient à Toulouse avec leur âne ou leur ânesse ou leur carriole. Elles revenaient avec un immense baluchon cousu dans une toile. Elles défaisaient ce linge, ce baluchon. Elles mettaient le linge à tremper la nuit dans de l'eau très chaude. Elles le lavaient le lendemain. Elles le battaient. Elles allaient le rincer à la Garonne. Et on retrouve un usage intéressant des ramiers puisqu'on y mettait une corde autour des peupliers. Et là, on y mettait tous les draps à sécher. Et quand c'était sec, on refaisait le baluchon, on repartait. Ça, c'était un cycle d'une semaine à peu près. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de blanchisseuses.
Mais j'imagine beaucoup. Bien. D'ailleurs, il y a une rue des blanchisseuses.
Absolument.
À Blagnac, dans le vieux Blagnac.
Absolument, hein. Absolument.
Là aussi, c'est pas par hasard. Alors, vous parlez de la Garonne, voie de circulation, donc voie de transport, transport fluvial, on dirait aujourd'hui. À quel moment va survenir la révolution, la grande révolution des transports et quelles vont en être les conséquences à Blagnac?
Alors, la grande révolution des transports, en fait, elle va se faire ailleurs que sur la Garonne. Parce qu'en fait, ce qu'on constate à la fin du XXe siècle et à la moitié du XXe siècle, et bien sûr de nos jours, on n'utilise plus la Garonne pour les transports. Par contre, il y a une première révolution qui intervient au XVIIIe siècle, en 1770, avec la construction de la route de Grenade, qui a été une route extrêmement importante à l'époque et qui l'est toujours, en fait. Elle structure
oui,
le
axe
nord.
Très important.
Très
bien sûr.
Important. Nord-ouest toulousain jusqu'à Grenade. En fait, cette route, elle est typique d'une période très faste dans le Languedoc, où les États du Languedoc ont mené à bien toute une série de travaux d'investissement. Il faut se dire qu'à la fin du règne de Louis XIV, les chemins et les grandes voies étaient quasiment impraticables en hiver.
Oui, oui.
Trop de boue. En 1698, les autorités toulousaines font une supplique en disant « Nous n'avons plus de bois pendant l'hiver parce que les voituriers ne peuvent plus passer leurs voitures sans bombe, sans lise.
Ouais.
Et nous n'avons pas de bois alors que nous avons les forêts royales de Boucone et de Buzet juste à côté de nous. » Et donc, à peu près à la moitié du XVIIIe siècle, les États du Languedoc et à Toulouse, l'Homénie de Brienne, l'archevêque, sont à la manœuvre pour rénover ou reconstruire les grandes voies de circulation. D'abord, celles qu'on appelait de première catégorie, qui reliaient Toulouse à Montpellier, Toulouse à Paris, Toulouse à Bayonne. De deuxième catégorie, Saint-Gaudens et le Bas-Languedoc. Et de troisième catégorie, qui étaient des routes qui reliaient les points d'un même diocèse civil, dont nous avons eu Toulouse-Haute-Rive, Toulouse-Fronton, c'est de cette époque que date la route de Fronton, et dont Toulouse-Grenade. Et cette route, en fait, et tous ces travaux ont permis le décollage de l'activité économique. C'était une révolution administrative et économique qui a été admirée par Tocqueville. Tocqueville, dans ses ouvrages, était mort d'admiration devant ce qui s'est passé. Donc, on arrive au tramway à cheval, on arrive au tramway électrique en 1914, on arrive au chemin de fer en 1903, donc juste un peu avant, et on arrive à l'aéroport. On parle de l'aéroport en 1920 pour la première fois. Mais c'est un paradoxe énorme, à savoir que l'équipement de transport le plus important de notre commune, en fait, eh bien les Blagnacais et le conseil municipal n'ont rien eu à en dire.
Ils n'ont pas eu leur mot à dire.
Rien. Ni en 1920, c'est le premier projet. On pétitionne de partout, on n'en veut pas, Blagnac, on n'en veut pas, parce que c'est sur les bonnes terres agricoles, on n'en veut pas. Ouf, l'État choisit Franck Casal, mais petit à petit, les tensions internationales montent. Franck Casal devient un aéroport militaire. Il y a un besoin d'aéroport civil et on revient vers Blagnac. Et en 1938, l'armée décide. La guerre n'est pas loin. Ceux qui ont compris l'ont compris. Les expropriations sont décidées et la construction commence en 1939. Blagnac n'a rien eu à dire. Elle s'est retrouvée avec un aéroport, deux pistes et un hangar sur son territoire. Et là, ce qui se passe, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, on en a parlé lors de la première émission, c'est un moment d'épreuve. Tout est détruit avec les bombardements alliés, y compris l'usine de Voitine, elle est touchée, qui est juste là. C'est la première usine qui est devenue la Snacam ensuite. Et là, on reconstruit. Mais ce n'est qu'en 1953 que la première aérogare est construite en dur, celle que nous avons, la première, celle avec ce parallélépipède blanc qui est toujours là, l'aviation d'affaires. Jusque-là, c'est les cabanes en bois, c'est la tour de contrôle en bois. Et puis, ça devient un vrai aéroport avec l'ouverture de la ligne Paris-Toulouse, enfin. Dans les années 62, l'aérogare est saturée. On commence à envisager un deuxième aérogare qui sera Blagnac 2, celui que nous connaissons,
oui,
que nous fréquentons. Il est inauguré en 78. Et là, depuis, eh bien, vous et moi, et sûrement nos auditeurs, nous savons très bien qu'il y a des ouvertures de halls différents.
De nouvelles lignes, presque chaque année.
Tous les ans, nouvelle gouvernance, on en avait un peu parlé aussi, nouvelle tour de contrôle et nouvelle voie de circulation, y compris le tramway. Et ce qu'il faut noter avec l'aéroport de Blagnac, c'est sa deuxième mission qui est essentielle. Et on retrouve là l'industrie aéronautique, c'est que l'aéroport est bordé d'usines aéronautiques depuis très longtemps, donc depuis 1939, la guerre. Et ces usines aéronautiques utilisent les pistes de Blagnac comme centre d'essai en vol. Ça, c'est très très rare. En France, c'est unique. Ailleurs dans le monde, c'est très très rare. Et dans les pistes de l'aéroport de Blagnac, on a vu s'envoler l'Armagnac après-guerre, Caravelle, en 1955, le Concorde, en 1969, le premier des Airbus, le A300, qui a lancé
toute l'aventure jusqu'à Airbus, jusqu'à la 380, la 350 aujourd'hui.
Absolument, il ne faut pas oublier les ATR aussi, dont des avions plus petits, mais malgré tout extrêmement importants, et dont cette vocation de l'aéroport est quelque chose d'unique. On peut en retenir que l'industrie aéronautique est extrêmement importante pour notre économie et pour Blagnac. Aujourd'hui, Airbus joue à égalité avec Boeing, l'autre grand avionneur de l'aviation civile. C'est un succès absolument énorme. Je voudrais rajouter que l'aéronautique, c'est l'économie, mais c'est aussi le patrimoine. Et cet aspect patrimonial, pendant très longtemps, Toulouse et aussi les communes de Toulouse et ailleurs ont mis longtemps à comprendre que c'est aussi un patrimoine. Et donc, je suis particulièrement satisfaite que Aéroscopia, par exemple...
Le musée de l'aviation civile.
Absolument, soit juste là, à côté du bâtiment d'Aéroconstellation. L'atelier aussi de présentation des ailes anciennes, juste à côté. Donc, pour nous rappeler que nous devons aussi nous intéresser à cette notion de patrimoine. L'économie, très importante, et j'en suis ravie, on l'a dit au début, à Blagnac, 40 000 emplois, dont l'immense majorité vient justement de l'industrie aéronautique. C'est un plus énorme.
Oui, d'ailleurs, je crois que dans la journée, la population de Blagnac est multipliée par 3 quasiment. Parce que, bon, il y a les gens qui viennent pour travailler, mais aussi il y a une salle de spectacle au Dissud, qui draine chaque année quand même plus ou moins 160 000 spectateurs tout de même. Et puis Aéroscopia, l'aéroport, bien sûr, aussi, les gens qui viennent prendre l'avion, qui arrivent. Donc voilà, c'est aussi une ville où on passe beaucoup.
On passe beaucoup et dont la gestion du passage et la gestion des flux est une question qui se pose à Blagnac, bien évidemment, les transports, les déplacements, tous les parkings. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité, c'est un sujet important qu'il faut traiter avec intelligence pour ne pas nuire justement à l'économie, à l'attractivité du territoire, mais aussi faire en sorte qu'on continue à avoir le bien-vivre que nous avons à Blagnac, parce que j'espère vous avoir persuadé à la fin de ces 3 émissions...
Il y a une qualité de vie aussi, Blagnac.
Il y a une qualité de vie et que je crois les Blagnacais souhaitent la conserver pendant le plus longtemps possible.
Eh bien, c'est toujours aussi passionnant de discuter avec vous, Annie Thomas, mais il faut hélas mettre fin à cette émission. Merci encore d'y avoir brillamment participé à l'occasion de ce numéro consacré au territoire et à l'économie de Blagnac. Que de choses y avons-nous une nouvelle fois apprises en vous écoutant, Blagnac étant décidément une commune qui présente des visages multiples et parfois inattendus. Je me permets de rappeler que l'association que vous présidez, Annie Thomas, Blagnac Histoire et Mémoire, publie une revue semestrielle et que l'on peut consulter son site web en se connectant à l'adresse www.blagnachistoire.e-monsite.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.